Il est 14h05 sur France Inter, Cosmopolitaine, la dernière avec vous, Paula Jacques. Vous êtes magnifique dans votre jolie robe.
Merci Dominique, je pourrais en dire autant. Hein.
Ah, je n'ai pas de robe,
désolé. Vous avez de belles lunettes. Écoutez, si vous aimez me boire, revenez vers 15h, on va boire un peu pour fêter tout ça, quoi. Au revoir Dominique.
À bientôt.
Salut les amis de la Cosmopolitaine, une émission en partenariat avec la revue Transfuge, une émission chroniquée par Marie-Madeleine Rigopoulos et Laurent Bourdon, réalisée par Michel Soulier, préparée par Fanny Leroy et musiquée par Jean-Baptiste Audibert.
Cosmopolite. Cosmopolitaine.
Je m'appelle Lestou Nemes.
Javier Cercas.
Rodrigo Pla.
Witt Stillman.
Paul Constant.
Tonoma Monegros Lanthimos.
Naida Panahandas.
Nanni Moretti.
Sasha Stanisic.
Dina Mengestu.
Laura Bispuri.
Joshua Oppenheimer.
Sarah Gavron.
Pablo Trapero.
Jairo Bustamante.
Sharif Majdalani.
John Scarpignano.
Akan Günday.
Horacio Castellanos Moya.
Martin Amis.
Joy Deep. Roy Bhattacharya.
Joachim Trier.
Labraham B. Joshua.
Richard Flanagan.
T.C. Boyle. And I am the guest of Cosmopolitan.
France Inter, on n'aime pas, on vous en parle quand même. La direction de France Inter estimant qu'au-delà de cette limite, mon ticket n'est plus valable, Cosmopolitaine ne sera pas reconduite à la rentrée de septembre. Cosmopolitaine, 17 ans d'âge, et près de 600 000 spectateurs doivent passer la main, paraît-il. Chacun son tour d'aller au bal, comme dit la chanson, faut pas que ça soit toujours au même. Mais avant que le couperet ne tombe, dans une heure exactement, j'ai eu envie de me faire plaisir une dernière fois. J'ai eu envie de réunir les gens que j'aime. Des écrivains, des cinéastes venus d'ailleurs, des étrangers, des cosmopolites dont je ne dirais pas que je les ai découverts, mais dont je savais que le jeune talent allait devenir grand, très grand, essentiel et indispensable à l'intelligence, la complexité et la beauté du monde. Merci à vous tous de me faire le plaisir d'être là. Merci Nancy Houston, romancière et essayiste née au Canada. Merci Dany Laferrière de Haïti. Merci Tony Gatliff du Romancero Gitan. Merci Atik Raimi qui n'est pas encore là mais qui ne va pas tarder. Atik, l'Afghan qui aime et est aimé des femmes. Toby Nathan, merci, mon compatriote né en Égypte, au Caire qui plus est, parce qu'Alexandrie, alors là, c'est tout à fait autre chose. Alors, merci pour ce dernier tour de piste ensemble qui sera joyeux, j'espère. Il ne s'agit pas de se lamenter ou de fulminer contre Madame Terminator, pour ne pas la citer, mais de se demander, de se poser des questions. Est-ce que Cosmopolitaine a réussi, 17 ans durant, à être à la hauteur de ses ambitions? L'ouverture aux créateurs de toute la planète, le soutien aux talents de l'exil, le métissage culturel en France, la lutte contre le racisme et pour les droits des femmes. Voilà le programme de cette dernière, sauf que je dois vous dire, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Il y a eu un push. Et oui, mon équipe a décidé de jouer les révoltés de la Cosmopolitaine. Michel Soulier, Fanny Leroy, Marie-Madeleine Rigopoulos et Laurent m'ont convoqué pour me dire, alors écoute, ça va, t'as assez fait tes preuves, la preuve, je suis virée. Occupe-toi donc de tes invités et laisse-nous faire le reste, nous allons te surprendre. On verra ce qu'on verra, ok. Eh bien alors, je m'occupe de vous, mes invités, puisque je suis interdite du reste. Et pour commencer par le commencement, je voudrais vous poser une question. D'abord, une question basique. À quoi, selon vous, a pu bien servir Cosmopolitaine, inaugurée en 1999, au siècle dernier, en somme? Dany Laferrière.
À faire balader la France un peu partout dans le monde. Et de toutes les façons aussi. Parce que moi, je vous ai vu en Haïti, je vous ai vu en Afrique, je vous ai vu ailleurs, à écouter les sons, les accents, les musiques, les contenus, et à faire venir et tous ces gens-là. Vous avez dit deux mots au tout début, vous avez dit fêter, et j'espère que ce sera une fête, parce que ça l'a toujours été, et une fête de l'esprit, et une fête aussi parce que les invités venaient de partout, et bien moi, je pense que et c'est normal que la France, malgré tout ce que l'on pense, ait pu sentir un peu la musique de nos livres. Et s'il n'y avait pas Cosmopolitaine, il y aurait un certain handicap dans l'oreille.
Alors vous savez, Dany, tout au long de cette année, je vous ai presque toujours invité pour chacun de vos livres. Et vous me disiez, oh là là, c'est le dernier. Non, non, c'est terminé, j'en ai marre, j'ai plus rien à dire. Puis vous reveniez avec un autre livre et quelques années après, vous voilà immortel, David. Dany, alors c'est bien parce que vous êtes plutôt paresseux. Hein. Plus la peine de songer à votre postérité, elle est là. Nancy Huston.
Hello Paula, je vous ai rencontrée en Californie, pour ma part, bien avant le début de Cosmopolitan. Et ce que je dirais, c'est que vous avez su, en plus d'écrire vos propres romans superbes, vous avez eu cette générosité, j'ai envie de dire, de l'hospitalité orientale, de construire avec la langue française des maisons de mots dans lesquels vous avez accueilli des gens du monde entier. Et chacun a découvert sa maison qui était prête pour lui dans des couleurs et des formes que vous aviez réfléchies à l'avance. Et ça, c'est un don incroyable.
Tony Gatliff, vous vous souvenez, pour chacun de vos films, on vous a accueilli avec un bonheur extraordinaire en se disant, voilà un cinéaste français qui nous montre une voie et un monde venu d'ailleurs.
Oui. Oui, oui, il y a longtemps déjà. Oh là là, il y a longtemps. Mais on est toujours là. Et on est toujours comme au premier jour parce que le monde ne change pas. Et donc, c'est très bien parce que vous avez collaboré à faire connaître cette musique, la musique gitane dans le monde entier, et surtout la musique des gitans de l'Est qui souffrent énormément. Et grâce à vous, grâce à votre émission, parce que je suis venu à presque, pas à tous les films, mais presque à tous les films, parce que je vous aimais bien aussi, vraiment. Et donc, voilà, vous avez collaboré à faire connaître cette musique et ce peuple gitan qui est dans le monde entier et qui est inoffensif.
Qui est un peuple essentiel, qui est pour moi l'incarnation de la musique et de la notion de durée. Ils durent malgré tout, les persécutions, les vicissitudes, ils durent et ils sont libres. Toby Nathan, alors vous êtes aussi un type au talent multiple. Hein. Vous avez inventé une nouvelle thérapeutique. Si, en quelque sorte, vous avez écouté en tant que médecin clinicien les symptômes, les douleurs de vos patients venus d'ailleurs, avec d'autres dieux, avec d'autres configurations freudiennes en quelque sorte. Vous les avez soignés. Ensuite, vous vous êtes mis à écrire des polars. Vous aviez une grande place à votre mère égyptienne, très importante dans votre vie. Hein, hein. Et puis, vous êtes pour nous une espèce de devin. Hein, vous devinez un peu ce qui se passe dans nos rêves, la tournure de cette société. Et vous et moi, nous sommes aussi liés par quelque chose, Toby, c'est que nous sommes complètement attentifs, amoureux et désespérés par les mondes qui disparaissent.
Ouais, moi je pense que... Bon, alors, Paula d'abord... Comment dire, Paula, c'est, on s'est rencontrés dans le ventre de nos mères, en fait. Hein. On est des sortes de jumeaux, on s'est rencontrés fœtus déjà, et déjà Paula était ce qu'elle était, c'est-à-dire
blonde,
sexe, très sexe, et puis surtout, elle était quelque chose qui fait naître la vie, quoi. C'est-à-dire, il y a de la vie, mais on le sait pas. Et puis elle touche, et hop, la vie, elle sort, comme ça, c'est comme, elle voit, les graines poussent rien que quand elle voit Paula, quoi. Et donc, c'est vrai, une graine, il y a une graine, là, hop, elle voit Paula, ça devient une plante, quoi. Et les graines, et puis aussi plein de choses comme ça, c'est pour ça que je dis qu'elle est
bon,
sexe.
Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'à propos de plantes, vous êtes un peu arrosé aujourd'hui, Toby, hein. Vous avez l'air bien excité, là. Vous buvez.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande à tous de vous arrêter. Paula Jacques, vous avez brimé Laurent Bourdon toute l'année. Vous l'avez brimé, vous l'avez appelé Lolo, vous l'avez frustré. Ben, je lui donne la parole.
Oui, parce qu'il y a un truc qui était un peu imprévu, Paula, c'est que j'ai fait un rêve cette nuit. Et je me suis retrouvé, moi, dans les caves de l'INA devant le placard Paula Jacques. Parce que dans mon rêve, il y a un placard Paula Jacques dans les caves de l'INA. Et alors, il y a plein de cartons, il y a un peu de poussière en haut, mais il y a plein de cartons. Et alors, j'ai commencé par le carton du haut, tout à fait en haut. Et alors, à l'intérieur, il y avait il y a un film, c'est pas une bande magnétique, c'est un film, ça date d'octobre 70. Et on y découvre une très belle et très jeune femme, aux cheveux courts, les yeux en amande.
Ah ça alors?
Eh oui, comédienne, elle est aussi la co-directrice d'une compagnie basée à Saint-Étienne, elle se nomme Paula Jacques bien sûr, et répond aux questions que la télévision française est venue lui poser à propos de sa compagnie justement.
Alors ça alors, je m'en souviens plus du tout.
Les comédiens qui ont tous travaillé dans la décentralisation et en particulier à la Comédie de Saint-Étienne, on nous a proposé de faire une tournée très originale en Afrique noire, originale parce qu'elle nous permettra de rester assez longtemps dans un centre culturel africain et d'y monter un spectacle original sur place.
Ça, c'est Paula, la cosmopolitaine Paula. On lui parle de Saint-Étienne, elle répond « Afrique noire, on ne se refait pas ». Le carton d'à côté s'intitule « Les après-midi de France Culture ». Vous vous en souvenez, Paula, de ces après-midi où, selon l'humeur de votre rédac-chef, vous vous retrouviez magnétophone en bandoulière à la fête de l'air de la Ferté-Alais ou dans la cour de la prison de la Roquette. Oui, parce que va-t-on détruire la prison de la Roquette?
C'est la question que l'on se pose. Alors, vendredi 1er mars, vers 2h de l'après-midi, une trentaine de personnes environ dans la cour de la Roquette, tapaient du pied parce qu'il pleuvait, il neigeait, en attendant qu'on veuille bien leur ouvrir la porte. Il s'agissait de gens qui venaient protester contre la démolition de cette prison. Ils étaient conduits par un professeur des Beaux-Arts, Michel Verne. Alors voici la scène telle qu'elle s'est passée.
Je vous ferai grâce de la scène telle qu'elle s'est passée. Passons plutôt au 8 janvier 1978. Ce jour-là, le journal d'Antenne 2 annonce la création de F Magazine. F comme femme, bien sûr. Dirigée par Claude Servan-Schreiber, assistée de Benoît de Groult, sa rédaction n'est composée que de femmes. Et parmi elles, celle qui est interviewée, c'est évidemment Paula Jacques.
D'abord, nous sommes toutes des femmes, et ce qui est le plus important que le fait d'être femme, je crois, c'est que nous sommes toutes, en tout cas pour l'instant, d'accord sur la façon de faire ce journal, sur ce que nous avons envie de raconter, ce qui fait que pour l'instant, la hiérarchie ne pèse pas.
Dans mon rêve, je découvre maintenant une autre boîte, pleine de bandes magnétiques. Sur cette bande-là, il est juste écrit « Lancement journaliste plus générique ».
On se retrouve à 17h, tout de suite, c'est l'oreille en coin.
Sourire, c'est pour la radio. Avec Mesdemoiselles Paula Jacques, Katia David, Chris Graffiti, Marie-Odile Monchicourt, Agnès Grib et Monsieur Den.
Alors là, si c'est pas une grosse madeleine ça, le générique de l'oreille en coin, et la voix de Chris Graffiti, et puis la vôtre Paula. Et oui, parce que contrairement à ce que vous avez déclaré un jour de novembre 1994 au micro de Serge Levaillant, le placard dans lequel vous archiviez tous vos reportages de l'oreille en coin n'est pas parti à la décharge publique. La preuve, j'ai tout retrouvé. Enfin, presque tout. Tenez, le jour où vous avez rencontré la dame qui en a marre des hommes plus vieux qu'elle.
J'avais épousé un homme qui était plus âgé que moi. Bon, mais aujourd'hui, j'en voudrais absolument plus. Je le connais, je le vois toujours, mais je vous assure que j'en veux pas, à aucun prix. Il a 10 ans de plus que moi, exactement.
Bah, vous le trouvez moche, moralement ou physiquement?
Ah, physiquement, il a énormément vieilli. Ça, je peux vous garantir qu'il est beaucoup plus vieux que moi, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Dès le jour où vous avez raconté votre visite au hammam de la rue des Rosiers.
Au début, ça fait un choc, d'abord parce qu'on est tout nu. Et puis
comme dans
voit,
tous les hammams.
Oui, et puis on voit énormément de dames toutes nues aussi, ce qui forcément crée des liens tout de suite. Tout le monde étant nu, on a l'impression de se connaître.
Et le jour où vous avez suivi sur un trottoir parisien deux petits garnements, les mains pleines d'écrevisses vivantes.
Qu'est-ce que vous faites avec ces écrevisses?
On fout peur aux bonnes femmes.
Vous faites peur aux bonnes femmes?
Ouais.
Pourquoi uniquement les bonnes femmes, c'est pas
à
très...
À tous les gens. Oui, mais les hommes, ils ont pas peur.
Évidemment, les hommes, ils ont pas peur. Vous en avez fait beaucoup des reportages pour L'Oreille en coin. L'émission mythique de Jean Garetto et Pierre Codou. Une émission au ton unique, à l'audace incroyable et au générique inoubliable.
Laurent, merci infiniment. Tu sais, j'avais oublié tout ça.
Je me doute.
C'est incroyable tout ce que j'ai pu faire quand même. Hein.
Et c'est pas fini, on y reviendra tout à l'heure.
Bon, alors, maintenant on revient à nos petits oignons. Donc, en 17 ans, nous avions, à cette époque, quand j'ai commencé, il y avait très très peu de place pour les écrivains étrangers ou les cinéastes qui ne parlaient pas le français sur les ondes. On invitait les grandes stars, évidemment. Ce qui fait qu'on passait à côté d'un tas de premiers films, de premiers romans. Formidable. Et là, tout d'un coup, à Cosmopolitan, on les a entendus parler dans leur langue assez longtemps. Est-ce que vous avez l'impression, vous tous qui êtes ici, que maintenant, ce travail-là est fait, qu'on prête plus l'oreille à ce qui vient d'ailleurs, Dany Laferrière?
Ah, je ne sais pas si on prête
plus l'oreille. Vous êtes francophone, il est vrai.
Oui, mais ce ne serait pas de votre faute si on ne prête pas plus l'oreille. Et d'ailleurs, la disparition de cette émission annonce un temps de surdité. Parce que entendre les gens dans leur sonorité est naturel, et entendre, même si les gens qui passent, et le fait qu'on a l'impression que la radio française n'avait pas peur d'entendre des langues différentes, je crois que c'est extrêmement important, parce que la langue annonce aussi le rythme, annonce aussi même les états d'âme d'une société. C'est une musique profonde, et on avait l'impression, d'ailleurs c'est Borges qui disait cela, à force de doubler et les actrices, à force de doubler Ingrid Bergman ou n'importe, par Pepita. Et en Argentine, ce serait plus honnête de remplacer Ingrid Bergman par Pepita elle-même. Et donc c'est ça qui nous menace, et des choses de monstruosité et de ce genre. Non, on aimerait bien vraiment qu'il y ait encore plus de possibilités. J'ai parlé à une éditrice dernièrement qui me disait, ben où est-ce que mes écrivains vont aller, et puisque tout est à la langue précise et française et directe, mes écrivains n'ont aucune chance de parler. Il restera peut-être les critiques littéraires qui pourront, les chroniqueurs, les chroniqueuses qui pourront en parler, puisqu'on ne les laissera plus, et ces écrivains-là parler directement et dire par la bouche même du cheval ce qu'ils ressentent.
Paula, parmi les invités, il y en a une qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui vous aime tellement qu'elle voulait vous laisser un message. Je vous propose d'écouter Simonetta Greggio, qu'on adore.
Il existe une colère qui n'a rien à voir avec la méchanceté. C'est les rugissements de celui qui défend sa propre fragilité. Ces mots, chère Paula, sont de Oriana Fallaci, et ce sont des mots auxquels j'ai pensé pour te dire au revoir. Dans cette émission qui a été un vrai soutien pour les écrivains, pour leur fragilité. Je me souviens toujours de la première fois que je t'ai vue, de ses yeux tellement malins, tellement curieux. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'une personne comme ça aime ce que je fais? Et ensuite, tu m'as toujours suivie très fidèlement et soutenue. Et voilà, et en fait, c'est un peu émouvant de dire au revoir à une émission comme la tienne, parce que c'est tout ce qu'on cherche quand on est auteur, quand on est écrivain, et tu as su tellement être là pour nous et justement aimer nos fragilités, nos fêlures. Merci Paula, je t'embrasse et je t'aime. Ah, et en fait, si tu n'as pas reconnu ma petite voix un peu troublée, c'est Simonetta Greggio.
Cosmopolitaine, Paula Jacques, sur France Inter.
Bon, écoutez, là, je commence à être très émue. Il faut pas, quoi, parce que vous voulez vous dire un truc. J'ai l'impression d'assister à mon propre enterrement.
Non,
là.
Non.
Mais si, je vois mon cercueil passer, et tout le monde dit, mais quel dommage. Et ce sont toujours les premiers, les meilleurs qui s'en vont en premier.
Mais
c'est
voilà,
ça.
La preuve. Hein? C'est vrai.
Bon, alors maintenant, parlons un petit peu de l'état du monde, parce que c'est quand même une émission comme celle-ci a voulu agir un petit peu sur l'état du monde. C'est-à-dire que moi, je pensais, quand j'ai commencé cette émission, c'était un petit peu sur la lancée de la grande hospitalité française. On n'était pas très très loin de l'époque des mode people, où tous les grands intellectuels, toutes sortes d'organisations ont été solidaires pour accueillir ces réfugiés vietnamiens ou cambodgiens qui échappaient au communisme. Il est vrai, ça c'était une circonstance favorable. Et aujourd'hui, il me semble que le monde a tellement changé que ça m'effraie complètement. C'est-à-dire, où est passé cette curiosité de l'autre, cette solidarité? Que vous en semble de ce côté-là, les uns les autres? Nancy?
Moi, j'ai été frappée par le mouvement de solidarité qui s'est porté internationalement vers les riches albertains lors des incendies dans le nord de l'Alberta récemment. Là, pour le coup, comme on pouvait s'identifier apparemment à ces gens qui avaient tout, des maisons, des voitures, des bagnoles, des boulots, et donc, oh, c'était une catastrophe. Pendant ce temps, des milliers de gens continuaient de se noyer dans la Méditerranée. Et donc, je crois que la littérature, si elle sert à quelque chose, ce n'est pas à militer, à tenir des discours politiques directement, mais à aider les gens à s'identifier à des gens qui ne leur ressemblent pas.
Et absolument. Et quoi de mieux, finalement, qu'un livre qui prend par exemple, qui fait parler à la première personne un personnage issu. Nous le connaissons, nous le comprenons, c'est vraiment un frère humain. Et il n'y a que la littérature qui peut faire ça. C'est-à-dire sortir de la dictature des statistiques indifférentes, lisses, et faire exister les êtres tels qu'ils sont. Il n'y a que la littérature et le cinéma, n'est-ce pas, Dany?
Ah ben tout à fait, qui aident beaucoup, qui aident silencieusement. Les gens sont là, de petites filles, de petits garçons, ils sont sous les draps en ce moment, puisque nous ne sommes pas à la même heure sur toute la planète, à lire un écrivain pour sortir de la violence familiale, pour sortir de la violence nationale, pour sortir de la violence sexuelle. Ils sont là avec une petite lampe sous le drap, à partir en voyage avec des gens morts, qui sont des écrivains, et donc vous ne mourrez pas pour la Jacques, puisque... Et on a retrouvé vos traces partout et les traces continuent. Et c'est très, très important. Et des gens, la littérature ne meurt pas, les écrivains ne meurent pas. Ils continuent à tenir la main des petites filles et des petits garçons sous les draps et qui leur permettront d'échapper au moins pour une heure, comme cette heure-là, et au massacre du monde.
Paula, ça fait deux petites années, moi, que je suis chroniqueur, modeste chroniqueur ici, et je vous vois, et je vous entends, et je vous envie tous les dimanches, parce que vous lancez Marie-Madeleine Rigopoulos, vous tournez vers elle, et vous lui laissez la parole, et je me suis dit un jour, je serai à sa place, et je lancerai Marie-Madeleine.
Et vous avez l'impression que je l'aime plus que vous, c'est ça?
Un peu, sans doute.
Bon, d'abord, c'est une fille, mais... c'est normal.
Voilà. Eh bien, aujourd'hui, c'est moi qui lance Marie-Madeleine Rigopoulos.
Franz Kafka disait que toute littérature est assaut contre les frontières. Chère Paula, j'aime à croire que grâce à vous, c'est exactement ce que nous faisions. Chaque dimanche, depuis ce studio, armés de livres et de films, nous prenions d'assaut les frontières du monde. Nous brisions les murs de l'esprit, les prisons mentales de la pensée unique, pour aller à la rencontre des écrivains et des cinéastes du monde entier qui nous ont tant offert. Nous avons lu et partagé ces lectures comme on partage ses joies et ses peines au creux de l'oreille d'un ami cher. Nous avons ri, souvent, et pleuré un peu. Nous nous sommes téléphonés en panique parce que nous avions perdu un livre à 3 heures de l'antenne. Vous m'avez, et ça depuis le début, donné des coups de coude pendant l'émission pour m'inciter à intervenir pendant votre interview. Et parfois, comme une enfant de 4 ans, c'est moi qui vous tirais par la manche pour en émettre le désir. Nous avons débattu avant et débriefé après. Nous avons rêvé et imaginé la vie à travers les mots. Pour ma plus grande joie et celle des amis en régie, vous avez rendu chèvre notre cher Laurent Bourdon qui vous l'a bien rendu. Il vous l'a bien rendu en n'étant pas toujours d'accord avec vous sur les films et vos désaccords étaient à entendre, aussi délicieux que vos enthousiasmes partagés. La seule chose sur laquelle nous n'avons tous ici jamais eu à débattre, car c'était une évidence, c'est de ces valeurs fondamentales qui nous unissent. Ces valeurs qui disent que l'art est la démonstration parfaite, que s'il existe de nombreuses cultures qui font la richesse du monde, il n'existe qu'une seule humanité. Bref, nous avons attendu ces dimanches que tout le monde craint et que Juliette Gréco hait si mélodieusement, car pour nous, il n'était jamais gris. Paula, tout comme vous avez ouvert votre cœur à la littérature et au cinéma, vous l'avez ouvert à vos collaborateurs qui sont aussi vos amis. Et pour y être entré et avoir fait le tour du propriétaire, je peux vous dire, chers auditeurs, que dans ce cœur, il y a de la place pour le monde entier. Car Paula est comme ça. Venue d'ailleurs, elle est pleinement présente où qu'elle se trouve. Elle vous ouvre sa maison, vous donne les clés de sa voiture, vous confie ses pensées, vous emporte dans ce monde merveilleux où le seul obstacle entre vos rêves et la possibilité de vos rêves, c'est vous-même. Alors, je sais qu'il est d'usage, et c'est une bonne chose, que nous nous vouvoyons à l'antenne. Cet usage est bon, car il invite l'auditeur à se joindre à nous au cœur de ce « vous » qui n'exclut personne. Mais aujourd'hui, je sais que personne ne m'en voudra si je déroge à cette règle pour te dire, Paula, tu es une grande dame. Je suis fière d'avoir été à tes côtés ces 8 merveilleuses années, et je t'aime.
Alors voilà ce qui me
tue. Nous chanterons le temps des cerises et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête. Et les amoureux du soleil au cœur, quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur.
Alors voilà, c'est ça un peu qui me fait le plus de peine. Bon, c'est évidemment, c'est terrible de plus faire ce métier. C'est un peu une drogue, comme vous savez. Mais c'est surtout l'idée que bah, je ne vous verrai plus. Vous dites, oui, on va se revoir après, mais on sait ce que c'est. Hein. La vie s'écarte. Bon, bah, vous avez terriblement manqué toute cette équipe. Mais j'ai quand même un petit reproche à vous faire. Et je regrette une chose, c'est que jusqu'ici, j'ai beaucoup essayé, mais sans jamais réussir à vous fourguer un de mes chiots, là. Comme ça, parce que
là, il n'en est pas question.
Il me semble quand même que si vous étiez un peu soucieux de votre carrière, vous auriez pris le chiot.
Oui, mais on n'est pas comme ça, nous.
Bon, alors, Toby Nathan, je voulais vous demander, est-ce que aujourd'hui, donc, par rapport au XXe siècle, nous avons encore plus peur de l'autre?
Il est évident qu'on a peur. En même temps, on a compris aussi. On a compris l'importance de la différence aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse chez l'autre, et au fond, Paula, vous et moi, on fait le même métier. Hein, c'est exactement le même métier. C'est-à-dire aller voir l'intelligence de l'autre. Non pas qu'il est insemblable, mais justement qu'il a une intelligence particulière. Cette différence, c'est-à-dire... Il est intelligent à sa façon. Et c'est cette façon d'être intelligent, c'est ça qui a été votre questionnement tout le temps. C'est pour ça que j'ai été passionné par votre émission, par vos livres aussi, parce que j'aimerais bien, moi, parler de vos livres aussi, Paula. Et parce qu'il y a ça dedans, c'est-à-dire aller voir chez l'autre, celui qui est si lointain, son intelligence particulière, sa façon à lui d'être intelligent. Alors, quand nous voyons arriver des étrangers... qu'ils soient des migrants, des réfugiés. Nous avons aussi été des réfugiés, vous et moi, Paula. Oui. Et on nous a regardés comme des réfugiés. Moi, je m'en souviens.
Toby, je vous rappelle quand même que quand nous avons, enfin, que la communauté juive a été chassée d'Égypte, que nous sommes arrivés en France, nous avons été accueillis relativement à bras ouverts, quand même. Il y avait énormément d'associations qui s'occupaient des nouveaux arrivants.
On n'a pas la même expérience, mais bon.
D'accord, non.
C'est pas grave, je veux dire. On a été accueillis. Et puis on a vécu, je veux dire, on a été accueillis, oui, bien sûr. Enfin, il y a des gens qui nous ont accueillis, des gens qui ont fermé la porte. Et puis, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est pas ça. Et puis on a fait vous et moi la même chose au fond, Paula. C'est-à-dire qu'on a souri, on a fait des grands sourires, on a essayé de les séduire, et puis finalement, ils ont été sensibles à notre forme d'être.
On a essayé de devenir français, Toby. Vous avez essayé de devenir français?
Ouais, moi j'ai tout fait pour le devenir. Oui. J'ai pas bien réussi, mais j'ai tout fait. Je voulais absolument devenir français normal, quoi. Et je me souviens de ça quand j'étais enfant à l'école. J'arrivais à l'école, tout le monde me regardait, disait « Mais qui, d'où il vient celui-là? Qu'est-ce que c'est que ce type ?» Et je voulais surtout qu'on ne reconnaisse pas ma différence. Je voulais me fondre dans la masse. Jusqu'au jour où, à la fin, j'ai dit « Bah, puisqu'ils me veulent différent, bah, je vais forcer un peu la dose, quoi. » Et j'ai commencé à faire le différent. Mais ça, c'est bien plus tard. Mais au début, ce que je voulais, c'était paraître normal. Et absolument.
Et vous, Nancy?
Pareil, le même cheminement. D'abord, vouloir me fondre dans la masse, faire semblant d'être une intellectuelle parisienne née dans le 6e arrondissement.
Mais vous étiez une grande intellectuelle universitaire, vous étiez très active dans les mouvements féministes.
Voilà, et
je dois dire que vous êtes le sosie de Jane Fonda, personne ne pouvait vous résister. Le pire des machos s'inclinait, disant « Mais oui, tout ce que tu voudras, c'est vrai, je suis abominable, je vais m'amender, n'est-ce pas ?»
C'était pas exactement le discours que j'entendais. Mais j'étais dans l'assimilation, effectivement. Et puis c'est mon corps qui a dit stop. C'est mon corps qui a dit stop. J'ai eu des jambes engourdies pendant des mois et des mois, et mon corps a dit, tu as gelé tes racines. Et you have to wake up the English language, you know, otherwise you're not going to do anything with your fucking books.
Yes.
Et tu m'as encouragé, tu m'as invité la première fois à Cosmopolitan, c'était pour Cantique des Plaines.
Qui était un chef-d'œuvre.
Qui était écrit mon premier livre en anglais. C'était le premier livre que j'écrivais en anglais.
Ouais. Et que tu as traduit ensuite en français.
Voilà.
Oui. Et Dany, est-ce que vous avez voulu être aussi un petit français normal?
Oh non, je suis arrivé en France pour entrer à l'Académie française.
Voilà. Certains veulent président de la République. Vous, c'était l'Académie française.
Non, je voulais dire que j'ai passé une grande partie de ma vie au Québec, à Montréal. Donc la chose ne s'est pas passée en France. Je suis arrivé tout armé, armé d'une épée, et à Paris, et construit, structuré par Haïti et le Québec. Ce qui s'est passé au Québec, c'est que moi, j'étais déjà différent en Haïti, et sans le savoir.
En quoi ?
Sans le savoir, c'est les autres qui voyaient cela. Un peu comme la définition de Cocteau, un original, c'est celui qui fait semblant d'être tout le monde sans y parvenir. Moi, j'étais juste comme ça, et je sais pas, je lisais, et dans mon quartier où les garçons jouaient tout le temps au football, et j'étais pas une sorte de playboy, j'avais pas des discussions sur les filles. Enfin, je menais une vie complètement, j'étais naturellement environné par ma mère et mes tantes, et quand je suis arrivé à Montréal, j'ai mené cette vie un peu rêvée. Et je me souviens, j'étais plus heureux de dormir et que de me réveiller. Et donc, je vivais dans le monde des rêves. J'habitais l'univers des rêves, déjà en Haïti, au Québec. Et ça se poursuit en France. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu quand on a ouvert la porte pour me laisser entrer.
Tony Gatliffe, alors votre parcours à vous. Vous êtes, Tony, vous êtes né en France, n'est-ce pas ?
Non, je suis né en Alger.
Ah, vous êtes né à Alger, d'accord. Alors, est-ce que vous avez eu aussi ce sentiment, ce désir, se fondre dans la masse, ressembler à tout le monde ?
Non, non, non. Moi, je suis arrivé à l'âge de 12 ans, même pas. Et donc, je suis venu d'Algérie, évidemment. Et qui était en guerre, elle finissait la guerre. La guerre terminée en Algérie. Et donc j'ai vu partir des milliers et des milliers et des milliers de gens dans le port d'Alger. Et je devais avoir 11 ans peut-être à ce moment-là. Et donc ce qui m'a frappé, c'est tous ces gens, ces hommes, ces femmes, ces enfants, les vieux, tout le monde pleurait assis sur les valises. Et je comprenais pas. Pourquoi ils étaient là et après pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils allaient partir? Et je savais pas où. La France, pour moi, je la connaissais pas. Elle était juste notre patrie, la France, comme nous disaient les instituteurs. Et donc je savais pas où ils allaient. Donc c'est ce qui m'a frappé, c'est cette angoisse de tous ces gens qui partaient. Et après là, le peuple entier d'Alger, arabe d'Algérie, qui est descendu de partout des montagnes et des plaines et qu'elle est dans Alger, où j'étais là, j'étais vraiment là. Et donc, on manquait de pain, tellement les gens ne travaillaient pas, ils étaient en train de faire la fête, et criaient, et tout ça. Et j'ai assisté au déracinement d'une statue d'un général, je ne sais pas lequel,
français.
Sur son cheval, oui. De Napoléon, je pense. Et c'était une angoisse horrible de voir ça, de voir tous ces gens, des milliards, en train de tirer avec des cordes, des centaines, en train de déraciner la statue de
excusez-moi, Tony, mais alors c'est une question là qui me vient comme ça, j'espère qu'elle va pas vous embarrasser. Vous êtes d'origine gitane
par
votre mère. Est-ce que dans votre enfance à Alger, comment sont considérés les gitans? Parce que il ne faut pas simplement jeter la pierre sur notre propre pays. Est-ce qu'ailleurs aussi, le fait d'être gitan est une espèce de choses qui vous met à part, qui vous stigmatise?
Les gitans, c'est les plus pauvres du monde entier. Peut-être, je pense que du monde entier, parce qu'ils sont partout, ils sont à l'est, ils sont au sud, ils sont partout, et ils sont même au Mexique, un peu partout, et c'est les plus pauvres de la planète, je pense. Parce qu'il y en a qui sont moins pauvres que les autres. Les gitans, ils ont cette reconnaissance, c'est d'être les plus pauvres dans le monde entier. Donc nous, on était pauvres. Donc on était pauvres, étant donné qu'on était pauvres, on était méprisés. Vous savez qu'on méprise les pauvres, hein, on adore les riches, mais on méprise les pauvres tout le temps, quels qu'ils soient. Et donc voilà, donc on n'était pas chez nous, nulle part, et on n'est toujours pas chez nous, toujours pas. Et donc moi, par rapport à comment j'ai vécu en France et comment je suis arrivé ici là sur cette table, c'est que je n'ai jamais fait confiance à personne. Mais par contre, j'ai toujours reconnu devant moi des gens, j'ai toujours écouté, mais par contre, jamais eu confiance en personne. Non, je me suis battu dès l'âge de 16 ans, avant j'étais trop petit, et donc dès l'âge de 16 ans, je me suis battu tout le temps, et je me bats encore.
Pour faire vos films.
Oui.
Et on continue d'en parler, et on retrouve tous les invités, évidemment, de Cosmopolitaine. On est ensemble jusqu'à 15h, ne l'oublions pas, mais oui. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu...
Ça va vite, hein.
Eh oui, ça va très vite, émission un peu exceptionnelle. Vous savez, vous parliez tout à l'heure, Paula, de l'équipe de Cosmopolitaine, vous savez, il y en a plein qui sont derrière la vitre. Généralement, on les entend pas, et heureusement qu'on les entend pas, parce que des fois, ils nous disent des horreurs dans le casque, c'est terrible. Mais là, aujourd'hui, émission exceptionnelle, on va donner la parole. Alors, il y a Michel Soulier qui est là dans sa superbe robe estivale, qui réalise cette émission et qui a réalisé toutes les petites pépites qui apparaissent comme ça avec plein de sons d'archives, et c'est elle qui a tout fait. Et puis aussi, on va donner la parole tout de suite, c'est celle qui va vous, hein, qui va venir sur l'antenne là et qui va vous parler, Paula. C'est Fanny Leroy, on entend son nom dans le générique de fin. Bah, Fanny Leroy.
Ma Fanny.
Bah oui, bah la voilà.
Ma petite Fanny.
La voilà, votre Fanny.
Chers auditeurs, avant d'avoir la chance de travailler à ses côtés, c'est par les ondes que j'ai connu Paula Jacques. Voici quelques traits du personnage qui se cache derrière cette voix indissociable de France Inter. Cheveux blonds vaporeux, l'œil pétillant, les lèvres rouges, elle arrive, selon l'humeur ou la météo, avec sa veste léopard et ses Santiago, ou encore en élégante rétro, robe à fleurs évasées, escarpins soulignant, je cite, « les plus belles chevilles de Radio France ». La démarche souple, légèrement ondulante, hop, elle vous attrape le bras et vous balance. On va se boire un café, ma petite chérie. Égyptienne de naissance, Paula a tout le charme et la chaleur humaine des orientales. Et les talents de conteuse de Sherazade aussi. Insatiable curieuse, elle est toujours prête à s'éblouir devant la beauté des textes ou des images. Et ce qu'elle fait passer, et qui n'a pas pris une ride, c'est son infatigable passion pour la création. Lorsqu'elle interviewe un écrivain, ces questions sonnent toujours justes. Il faut dire que Paula, en plus d'être journaliste, est aussi romancière. Alors, écrivain ou journaliste ?
Écrivain de toute façon, journaliste encore, parce qu'il faut vivre et qu'on ne vit pas de sa plume. Et puis de toute façon, je crois que c'est très important d'être journaliste et écrivain, parce que le journalisme, ça vous permet d'aller voir le monde. Alors que le métier d'écrivain, c'est vraiment, vous le savez, enfin, c'est la solitude.
C'est une femme sensible aux douleurs de l'exil, qui font écho à sa propre histoire. On la retrouve ici, au Caire, lors d'un retour au pays natal, face à l'immeuble où elle vivait petite.
Moi, j'habitais ce grand immeuble extrêmement rococo, avec des balcons à colonnades en pierre. Nous habitions au sixième étage et nous montions sur la terrasse pour jouer. Et c'est de cette terrasse-là que j'ai vu l'incendie du Caire quand j'étais petite, mais c'était des images tellement violentes que je m'en souviens. C'est-à-dire qu'un matin, on a entendu un bruit terrible se répandre sur la place. Et on est tous montés sur la terrasse, tout l'immeuble est monté, y compris les impotents. Je me souviens, il y avait un voisin qu'on a traîné là-haut, et on a vu comme ça une horde de gens qui déferlaient avec des bâtons, avec des drapeaux qui hurlaient, et ils s'en sont pris à tout ce très très célèbre café Gropi qui était la grande pâtisserie. Ils ont mis le feu, et donc ça a brûlé, et je me souviens, ma mère était tombée dans les pommes, il y avait une vieille voisine qui hurlait, et tout le monde se frappait les joues comme on fait en Orient en criant. Et on disait, c'est la fin du monde, c'est la révolution. Effectivement, c'était pas la fin du monde, mais c'était la révolution.
Spontanée, drôle et légèrement dyslexique, Paula Jacques, la reine de la coquille sonore, retombe toujours sur ses pattes.
José Luis Rugulos, retenez bien ce nom que j'ai si mal prononcé. Mais tout d'abord, j'accueille avec un immense plaisir Ketevan Davichevi. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom ?
Davichevi.
Ah, parce que j'ai un problème avec les noms, vous savez. Hein.
Cosmopolitaine.
Bon, bah alors, on dit Bustamante. Hein. Bustamante, c'est un nom espagnol. Jabour Douahi. J'ai pas prononcé bien ? Non. Le docteur Mukwege, Thierry Michel.
Merde.
Bonjour Zazaou. Zadze, je voudrais... Non, je vais dire Zaza, comme ça je vais pas écorcher votre nom, ce sera plus simple. Je vous remercie beaucoup, Zaza.
Pour le chat.
Anticonformiste, un brin rebelle, Paula se promène un peu partout suivie d'un trio de chiens aussi libres qu'elle. Cette tendresse particulière, elle la relie à son enfance égyptienne.
Moi, dans ma famille, il n'y en a jamais eu. Et je m'obstinais, étant petite fille, à ramener des chatons que je prenais chez l'épicier. Et ma mère, aussitôt, les faisait disparaître. Et j'avais un oncle qui était spécialisé. J'amenais le chat et aussitôt il arrivait avec un sac, il embarquait la bête et on ne la voyait plus jamais. Je me suis mariée d'une certaine façon pour ne plus vivre avec mes parents, pour échapper à ma mère. Et le jour où j'ai vraiment ressenti cette liberté, c'est lorsque j'ai pu m'acheter un chien. Je suis allée m'acheter un chien et tout d'un coup je me suis sentie une femme libre, adulte, autonome.
Paula est une femme libre. Et ce qu'il y a de merveilleux avec les gens libres, c'est qu'ils vous invitent à l'être aussi.
Alors Paula, il y a encore un écrivain merveilleux qu'on adore, qui voulait vous parler, et c'est André Makin.
Parler de Paula Jacques signifie pour moi parler d'une époque dans l'histoire de la littérature française. Ça peut paraître assez grandiloquent, trop solennel. J'essaierai donc de modérer mon propos en parlant d'une rencontre, de la toute première rencontre que j'ai faite avec Paula. Il y a, j'essaie de calculer, mais en tout cas, beaucoup plus qu'une vingtaine d'années. Je venais de publier mon troisième roman, « Au temps du fleuve Amour », et Paula, avec son œil de chercheuse d'or, elle a remarqué ce roman, où il s'agissait justement de chercheurs d'or de Sibérie. Nous avons fait une émission qui m'a enchanté par... la manière très sincère, très spontanée de Paula, par son intérêt qui n'était pas feint. On peut feindre l'intérêt, on peut très bien simuler l'engagement, le partage de ce qu'on dit dans un dialogue avec l'auteur, mais chez Paula, ça n'a jamais été le cas. Il ne jouait pas le jeu, il était naturel, il était dans son élément, comme un oiseau dans l'air. Et donc ça, je l'ai remarqué tout de suite. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'était bien plus intime et plus rare. Ce qu'après les émissions de Paula Jacques, pendant un certain temps, on gardait en esprit la tonalité de chaque émission. On sortait de ce bâtiment qui est assez moderne, assez froid, et puis on portait cette ambiance en soi, en revenant, souvent à pied d'ailleurs, chez soi, pour ne pas briser ce rythme, pour ne pas casser l'ambiance qu'on a vécue avec Paula. On pourrait parler de Paula comme on a parlé de Mozart. On dit que les silences après un morceau de Mozart étaient encore de Mozart, même les silences. Et donc ces silences qui suivaient les émissions de Paula lui appartenait encore. Il y avait des échos de voix de Paula, il y avait sa vivacité intellectuelle, il y avait sa force d'engagement littéraire, et l'auteur les partageait sans être influencé en quoi que ce soit par ses choix littéraires. C'était une très grande liberté d'expression, une très grande liberté de choix esthétique. Maintenant, peut-on imaginer la suite? Je pense que oui, si Paula pensait à ces jeunes journalistes de France Inter qu'elle pourrait aujourd'hui conseiller, former, guider peut-être vers une nouvelle émission littéraire dont on a beaucoup plus besoin que de ces retransmissions des championnats de foot et d'autres bêtises. De plus en plus insensé d'ailleurs dans la programmation des radios et des télévisions. Il pourrait former donc une cohorte de jeunes qui continueraient son œuvre. Donc ce n'est pas la fin de ce que Paula a apporté à la radio, c'est plutôt un recommencement, le début d'une autre aventure. En tout cas, je lui souhaite beaucoup de se relancer dans ce nouvel exercice et comme toujours, de triompher. Merci beaucoup.
Cher André Makin, alors ça c'est tout l'emportement, la fougue slave, il est merveilleux, me comparer à Mozart. D'abord, moi je dis jamais de gros mots. Alors, ensuite, vraiment, cher André, je n'ai absolument pas envie de transmettre, je n'ai pas envie de faire, j'ai envie de continuer à faire moi-même. D'accord. Donc, je serai d'ailleurs un très très mauvais prof, il faut que vous dire... Bon, je ne dis rien. Je voulais vous demander maintenant, aux uns ou aux autres, quand nous avons commencé à travailler sur Cosmopolitan, Nous pensions que les choses iraient beaucoup, beaucoup mieux pour les créateurs, dans le monde de l'édition, pour les écrivains, pour le cinéma. Est-ce que vous avez l'impression que, comme la plupart des Français ou des gens à travers la planète, ce que vous avez à faire est de plus en plus difficile, Nancy?
Ce n'est pas mon souci principal, parce que je trouve que ce que fait le reste, ce que nous faisons à la Terre, est tellement grave qu'il faut un peu s'occuper de ça, parce que les tours d'ivoire, les conditions des écrivains, peu importe quelque part, si tout doit être emporté. Donc, je sais qu'on est censé être très inquiet de ça. Je sais que mes ventes baissent aussi, comme celles de beaucoup d'auteurs. Mais ce n'est pas un énorme souci pour moi, pas autant que de de voir ce que nous faisons à l'air que nous respirons et à l'eau que nous buvons.
Daniela Ferrière, je constate quand même quelque chose. Il n'y a pas très longtemps, quand même, les écrivains étaient sans doute, et les cinéastes, les grands cinéastes, moins invités à la télévision. Mais en tout cas, ils représentaient quelque chose. Ils représentaient peut-être ce qu'il y avait de plus intelligent, de plus profond. Et ils avaient une espèce de responsabilité de conscience morale. Aujourd'hui, on les invite beaucoup à toutes sortes d'émissions, des jeux, des divertissements, mais on leur pose des questions sur à peu près tout, sauf sur eux, sur leur travail. Alors, c'est quand même bizarre que plus on les voit, et moins ce qu'ils ont à dire est important.
Mais c'est comme ça un peu partout, dans toutes les choses. Il y a des zones de concentration, et après, il y a des relâchements, il y aura d'autres zones et de concentration. Et il faut dire que moi, je vois tout comme un long mouvement et une longue ligne sinusoïdale. Et je ne regarde pas exactement au moment où cela se passe. Et quand tout à l'heure, quand on a parlé de l'écrivain et de tour d'ivoire, et c'est peut-être dans certaines zones du monde.
Oui.
Mais la réalité de l'écrivain est toujours tragique, si l'on en croit les organisations internationales qui nous disent qu'on arrête les écrivains et que les gens, et que le mot reste toujours une des métaphores du monde et les plus précieuses. Et qu'il y a la moitié, peut-être même les trois quarts de cette planète, et déteste la parole. Le pouvoir reste toujours un peu fragile et face à un vers d'un poète affamé et qui n'a que ça à dire. Et on est toujours étonné. Le poète lui-même est toujours étonné. Il se dit, je suis petit et je ne vaux rien. Je me souviens de Natacha Mandelstam quand elle a voulu réclamer le corps de son mari. Et elle a dit, et cet homme qui ne pèse rien, et qui pèse à peine 90 livres, personne n'en veut, sauf moi. Mmh. Et toute la Russie en voulait, parce que c'était le poète, et il n'avait aucun poids physique, mais il avait un énorme poids, et moral, et un poids poétique.
Paula, vous pensiez être débarrassé de Laurent Bourdon, mais il n'en est rien, il y en a encore.
Mais oui, parce que tout à l'heure on s'est quitté.
Mais j'en redemande.
Dans la cave de l'INA, là, dans mon rêve, on était dans l'oreille en coin, cette radio dans la radio, ce grand moment. Une émission que vous avez quand même, de temps en temps, abandonnée, puisque un vendredi soir d'octobre 1980... Après ces célébrissimes accords, Bernard Pivot présenta ainsi ses invités.
Alors, six invités. Je vais commencer par Paula Jacques, qui est à ma gauche, qui est journaliste à France Inter et F Magazine, et qui publie son premier roman, Mercure de France, sous le titre Lumière de l'œil.
Lumière de l'œil. Premier roman, premier succès public, critique et médiatique aussi. La preuve.
Radioscopie.
Paula Jacques.
Jacques Chancel.
Eh oui, même Jacques Chancel vous donne rendez-vous pour une radioscopie. Il ne vous demande pas « et Dieu » dans tout ça, mais pas loin.
Mais quelle identité aujourd'hui vous vous reconnaissez ?
Ça, c'est une question très, très difficile. Eh bien, écoutez, là, j'ai envie de vous répondre aussi. S'il y a une identité à laquelle je me reconnais, c'est que précisément, je n'ai pas d'identité. C'est-à-dire que, étant juive égyptienne, étant française depuis peu de temps, je suis finalement en situation d'exil partout. Et c'est ça, peut-être que c'est ça l'écriture, c'est que l'écrivain est quelqu'un d'exilé, et quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, même s'il est né en France, il est exilé quelque part, et l'écriture, c'est la raison de son exil.
Toujours et encore l'exil, qui quelques années plus tard vous donnera l'idée d'une fameuse série d'émissions. Mais n'anticipons pas, pour l'instant, nous sommes en 1991. Très exactement, le 25 novembre 1991. Ce soir-là, avant de refermer son journal, PPDA se met enfin à parler de choses sérieuses.
Le prix Fémina a récompensé Paula Jacques pour son roman « Les anges dissipés ». Paula Jacques est l'une de nos consoeurs de Radio France et ses livres, toujours très travaillés, sont publiés au Mercure de France.
Bon, le bouquin s'intitule en fait « Déborah et les anges dissipés », mais on va pas chipoter. Passons. Passons également sur toutes les émissions que Paula va proposer sur France Inter. Pentimento, enquête sur les premiers souvenirs de lecture d'écrivains. Si tendre est la nuit, émission coquine avec Daniel Mermet. Nuit noire pour les accros du polar. Et quelques autres, jusqu'au dimanche 5 septembre 1999.
Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce premier numéro de Cosmopolitaine, le magazine des cultures plurielles que je vous proposerai tous les dimanches de 14h à 16h, une aventure magique, mes amis.
Le magazine des cultures plurielles était lancé. La suite, vous la connaissez, la fin aussi. Mais pour quitter Cosmopolitaine avec le sourire, voici un court extrait de l'émission du 12 octobre 2014. Tony Gatliff, ici présent, y était invité à l'occasion de la sortie de son nouveau film « Géronimo ».
Nous avons l'immense plaisir de vous accueillir, Tony Gatliff, et nous avons même envie de nous lever, standing ovation, pour Géronimo, votre dernier film. On se lève ?
Allez,
tout le monde se lève pour Géronimo ! Bravo, bravo, bravo !
Et oui, c'est aussi ça, Cosmopolitaine. Enfin, je veux dire, Cosmopolitaine, c'était aussi ça.
Merci Laurent, alors vraiment, c'est ma fête, hein. Après je vais pouvoir me plaindre, vous voyez, je suis virée, c'est affreux, je suis la plus misérable des créatures. Hein. Bon, alors vous avez bien fait de faire ce putsch, hein. Bon mais on arrête maintenant, on
c'est
laisse
fini.
Un
oui,
peu
oui, on
la parole aux invités. Moi je voudrais, alors là c'est une question générale et philosophique, Toby Nathan, parce que vous êtes un peu un universitaire, un penseur, à votre avis, est-ce que le monde va mieux ou de mal en pis avec le 21e siècle ?
Moi, je trouve que le monde va mieux. Je veux dire, je trouve que le monde va mieux, c'est-à-dire qu'il y a, il y a moins de morts, il y a moins de guerres, il y a moins de... malgré le nombre de guerres, malgré le nombre de morts, malgré l'importance de la pauvreté, il y en a moins, en fait. Il y a une prise de conscience des problèmes, il y a une sorte de... Le monde s'est un peu civilisé, pas beaucoup, mais un peu. Il a fait un pas vers là. Bon, alors, donc, le monde, à mon sens, va mieux. Mais ça ne veut pas dire que les gens vont mieux. Le monde va mieux. La situation s'améliore très lentement, peut-être pas sur le plan écologique, ça c'est vrai. Il y a plein de choses qui vont mal, mais il y a une prise de conscience de plus en plus importante. En revanche, l'inquiétude des gens va grandissante parce que la connaissance des désastres est de plus en plus perceptible. À ce moment-là, l'inquiétude est de plus en plus importante. Et peut-être nous autres écrivains, je sais pas si on peut mettre dans le sac des grands écrivains qui sont présents ici. Hein.
Des écrivains, en
des
tout
écrivains,
cas,
ouais, des écrivains, écrivains, ouais, des petits écrivains, des petits écrivains. Nous autres écrivains.
Ah, il fait le modeste.
Mais nous autres écrivains, au fond, nous sommes des artisans, en fait. Nous sommes des artisans et on nous demande toujours, par exemple, c'est épouvantable dans les émissions littéraires, on va plus jamais m'inviter nulle part, c'est épouvantable, sauf la vôtre, hein, sauf la vôtre. On nous demande, et comment vous avez fait pour écrire ce roman? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, comment j'ai fait? Mais c'est n'importe quoi, c'est un artisan, nous sommes des oui. artisans. Nous,
Toby,
nous fabriquons juste, des statuettes en bois, en
juste,
fait.
Juste un mot, parce que je sais pas s'ils ils seront d'accord avec vous. Ça va de mieux en mieux, Dany?
Le monde, monde
ouais.
On pose ces questions très vastes à tout le monde.
Je sais, c'est difficile.
Oui, à tout le monde aussi. Je me souviens, et souvent on pose à chaque Haïtien rencontré comment va Haïti, depuis le tremblement de terre. Et généralement, la personne répond pour son quartier, mais oui. semble répondre pour l'ensemble. Oui. Moi, je ne peux pas savoir une chose pareille, je ne suis pas équipé pour... Mais seulement, je trouve que c'est toujours très subversif, dans le bon sens du terme, de dire que le monde va mieux, parce que ça excite les gens. Je me souviens d'une phrase qui m'avait frappé, c'était le titre d'un livre à propos de l'éducation, et le titre était subversif parce que c'était « Le niveau monte ». On n'avait jamais entendu ce mot-là, toujours le niveau baisse. Bon. Pour une fois, on entendait
bon, écoutez,
le niveau monte.
On va finir sur cette parole désespérément optimiste. Merci, mais je ne sais pas comment vous remercier.
J'ai mais Paula, de... non, pas du tout. On va se lever pour Paula.
Non, ouais. Non. Attendez. Je voudrais d'abord aussi remercier les amis là, qui sont venus assister à cette émission, mes copains producteurs, réalisateurs qui sont là, qui me font des sourires, remercier mon équipe adorable, et qui va terriblement me manquer, vous remercier, vous surtout, qui avez été si fidèles, et puis vous dire, bah écoutez, continuez, j'espère que la personne qui me remplacera, vous y trouverez également votre miel. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Voilà.